Chapitre 12. En ce moment, la porte s'ouvrit sans bruit. Une jeune fille entra dans la chambre en promenant des regards timides autour d'elle. Son apparition causa une surprise générale et tous les yeux se fixèrent sur elle avec curiosité. Raskolnikov ne la reconnut pas du tout d'abord. C'était Sophie Semenovna Marmeladov. Il l'avait vue la veille pour la première fois, mais au milieu de circonstances et dans un costume qui avait laissé d'elle une toute autre image dans son souvenir. Maintenant, c'était une jeune fille à la mise correcte, modeste et même pauvre, aux manières convenables et réservées, à la physionomie craintive. Elle portait une petite robe fort simple et un vieux chapeau passé de mode. De ses ajustements de la veille, il ne lui restait rien, sauf qu'elle avait encore son ombrelle à la main. En apercevant tout ce monde qu'elle ne s'était pas attendue à trouver là, sa confusion fut extrême et elle fit même un pas pour se retirer. « Ah, c'est vous !» dit Raskolnikov au comble de l'étonnement, et tout à coup lui-même se troubla. Il songea que la lettre de Loujine, lue par sa mère et sa sœur, renfermait une allusion à certaines jeunes personnes d'une inconduite notoire. Il venait de protester contre la calomnie de Loujine et de déclarer qu'il avait vu cette jeune fille la veille pour la première fois. Or voilà qu'elle-même arrivait chez lui. Il se rappela aussi qu'il avait laissé passer sans protestation les mots d'une inconduite notoire. En un clin d'œil, toutes ses pensées traversèrent pêle-mêle son esprit. Mais en observant plus attentivement la pauvre créature, il la vit si écrasée de honte que soudain il en eut pitié. Au moment où, effrayée, elle allait quitter la chambre, une sorte de révolution s'opéra en lui. Ben, « je ne vous attendais pas du tout », se hâta-t-il de dire en l'invitant du regard à rester. « Mais faites-moi le plaisir de vous asseoir. Vous venez sans doute de la part de Catherine Ivanovna. Permettez, non, pas là, là. Tenez, asseyez-vous ici. » À l'arrivée de Sonia, Rasmushkin, assis tout près de la porte sur une des trois chaises qui se trouvaient dans la chambre, s'était levé à demi pour laisser passer la jeune fille. Le premier mouvement de Raskolnikov avait été d'indiquer à celle-ci le coin du divan où Zosimov était assis tout à l'heure. Mais, songeant au caractère intime de ce meuble qui lui servait de lit à lui-même, il se ravisa et montra à Sonia la chaise de Rasmushkin. « Toi, mets-toi là !» dit-il à son ami de lui faisant prendre la place précédemment occupée par le docteur. Sonia s'assit presque tremblante de frayeur et regarda timidement les deux dames. Il était visible qu'elle-même ne comprenait pas comment elle avait l'audace de s'asseoir à leur côté. Cette pensée lui causa un tel émoi qu'elle se leva brusquement et toute troublée s'adressa à Raskolnikov. « Je suis venu pour une minute. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, » fit-elle d'une voix hésitante. « C'est Catherine Ivanovna qui m'a envoyé. Elle n'avait presque personne sous la main. » Catherine Ivanovna vous prie instamment de vouloir bien assister demain matin au service funèbre à Saint-Mitrophane et ensuite de venir chez nous, enfin chez elle, manger un morceau. Elle espère que vous lui ferez cet honneur. Après ces quelques mots péniblement articulés, Sonia se tut. Je tâcherai, certainement, je ferai mon possible, balbutia à son tour Raskolnikov, qui s'était aussi levé à demi. Ayez la bonté de vous asseoir, ajouta-t-il brusquement. Je vous en prie. Vous êtes peut-être pressé. Je voudrais causer un instant avec vous. Faites-moi la grâce de m'accorder 2 minutes. En même temps, il invitait du geste à se rasseoir. Sonia obéit. Elle porta de nouveau un regard timide sur les deux dames et baissa soudain les yeux. Les traits de Raskolnikov se contractèrent, son visage devint pâle, qu'il était cramoisi, et ses yeux lancèrent des flammes. « Maman, dit-il d'une voix vibrante, c'est Sophie Semyonovna Marmeladov, la fille de ce malheureux monsieur Marmeladov, qui hier a été écrasé devant moi par une voiture et dont je vous ai déjà parlé. Pulcheria Alexandrovna regarda Sonia et cligna légèrement les yeux. Malgré la crainte qu'elle éprouvait vis-à-vis de son fils, elle ne put se refuser à cette satisfaction. Nunetchka se tourna vers la pauvre jeune fille et se mit à l'examiner d'un air sérieux. En s'entendant nommer par Raskolnikov, Sonia leva de nouveau les yeux, mais son embarras ne fit que s'accroître. Mais je voulais vous demander, se hâta de lui dire le jeune homme, comment les choses se sont passées chez vous aujourd'hui? On ne vous a pas tracassé? Vous n'avez pas eu d'ennui avec la police? Ben non, non, il n'y a rien eu. La cause de la mort n'était pas d'ailleurs que trop évidente. On nous a laissés tranquilles. Seulement, les locataires sont fâchés. Pourquoi? Ben, ils trouvent que le corps reste trop longtemps dans la maison. À présent, il fait chaud, l'odeur... De sorte qu'aujourd'hui, à l'heure des vêpres, on le transportera à la chapelle du cimetière, où il restera jusqu'à demain. D'abord, Catherine Ivanovna ne voulait pas, mais elle a fini par comprendre qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ainsi, la levée du corps a lieu aujourd'hui. Catherine Ivanovna espère que vous nous ferez l'honneur d'assister demain aux obsèques, et que vous viendrez ensuite chez elle prendre part au repas funèbre. Elle donne un repas? Oh oui, une collation. Elle m'a chargé de vous transmettre tous ses remerciements pour le secours que vous nous avez donné hier. Sans vous, nous n'aurions pas pu faire les frais des funérailles. Un tremblement subit agita les lèvres de les mentons de la jeune fille, mais elle se rendit maîtresse de son émotion et fixa de nouveau ses yeux à terre. Durant ce dialogue, Raskolnikov l'avait considérée attentivement. Sonia avait une figure maigre et pâle. Son petit nez et son menton offraient quelque chose d'anguleux et de pointu. L'ensemble était assez irrégulier, on ne pouvait pas dire qu'elle fût jolie. En revanche, ses yeux bleus étaient si limpides, et quand il s'animait, donnait à sa physionomie une telle expression de bonté qu'involontairement on se sentait attiré vers elle. En outre, une autre particularité caractéristique se faisait remarquer sur son visage comme dans toute sa personne. Elle paraissait beaucoup plus jeune que son âge, et bien qu'elle eût 18 ans, on l'aurait presque prise pour une fillette. Cela prêtait même parfois à rire dans certains de ses mouvements. Mais est-il possible que Katerina Ivanovna se tire d'affaire avec de si faibles ressources? Et elle pense encore à donner une collation? Demanda Raskolnikov. Bon, le cercueil sera fort simple. Tout sera fort fait, modestement, de sorte que cela ne coûtera pas cher. Tantôt, Katerina Ivanovna et moi avons calculé la dépense. Tout frais payés, il restera de quoi donner un repas. Et Katerina Ivanovna tient beaucoup à ce qu'il y en ait un. Il n'y a rien à dire là contre. C'est une consolation pour elle, vous savez comme elle est. Je comprends, sans doute, mais vous regardez ma chambre. Maman dit aussi qu'elle ressemble à un tombeau. Mais hier, vous vous êtes dépouillé de tout pour nous, répondit Sonetchka d'une voix sourde et rapide, en baissant de nouveau les yeux. Ses lèvres et son menton recommencèrent à s'agiter. Dès son arrivée, elle avait été frappée de la pauvreté qui régnait dans le logement de Raskolnikov, et ses mots lui échappèrent spontanément. Il y eut un silence. Les yeux de Lunetchka s'éclaircirent, et Pulcheri Alexandrovna elle-même regarda Sonia d'un air affable. Rodia, dit-elle en se levant, il est entendu que nous dînons ensemble, Lunetchka. Allez, partons. Mais Rodia, tu devrais sortir, faire une petite promenade. Ensuite, tu te reposeras un peu et tu viendras chez nous le plus tôt possible. Je crains que nous nous ayons fatigués. Oui, je viendrai, s'empressa-t-il de répondre en se levant aussi. Du reste, j'ai quelque chose à faire. Voyons, vous n'allez pas dîner séparément, se mit à crier à Zousmichin en regardant qu'avec étonnement Raskolnikov. Tu ne veux pas faire cela? Non, je viendrai. Certainement. Mais toi, reste une minute. Vous n'avez pas besoin de lui tout de suite, maman. Je ne vous en prive pas. Oh, non. Vous aussi, Dmitri Prokofitch, veuillez être assez bon pour venir dîner chez nous. Quand je vous en prie, venez, ajouta Dounia. Raskolnikov s'inclina, rayonnant. Durant un instant, tous éprouvèrent une gêne étrange. Adieu, Rodia, c'est-à-dire au revoir. Je n'aime pas dire adieu. Adieu, Nastasia. Oh, voilà encore que je le dis encore. Pulcheri Alexandrovna avait l'intention de saluer Sonia, mais malgré toute sa bonne volonté, elle ne put s'y résoudre et sortit précipitamment de la chambre. Il n'en fut pas de même d'Aftonia Romanovna, qui semblait avoir attendu ce moment avec impatience. Quand, après sa mère, elle passa à côté de Sonia, elle fit à celle-ci un salut dans toutes les règles. La pauvre fille se troubla, s'inclina avec un empressement craintif, et son visage trahit même une impression douloureuse, comme si la politesse d'Aftofia Romanovna l'avait péniblement affectée. Dounia, adieu! Cria Raskolnikov dans le vestibule. Donne-moi donc la main! Mais Je te l'ai déjà donné, est-ce que tu l'as oublié ? Répondit Dounia en se tournant vers lui d'un air affable, bien qu'elle se sentît gênée. « Eh bien, donne-la-moi encore une fois !» Et il serra avec force les petits doigts de sa sœur. Dounetchka lui sourit en rougissant, puis elle se hâta de redégager sa main et suivit sa mère. Elle aussi était toute heureuse, sans que nous puissions dire pourquoi. « Alors, voilà qui est très bien !» dit le jeune homme en revenant auprès de Sonia, restée dans la chambre. En même temps, il la regardait d'un air serein. Que le Seigneur fasse paix aux morts, mais qu'il laisse vivre les vivants, n'est-ce pas? Sonia remarqua avec surprise que le visage de Raskolnikov s'était tout à coup éclairci. Pendant quelques instants, il la considéra en silence. Tout ce que Marmeladov lui avait raconté au sujet de sa fille lui revenait soudain à l'esprit. « Voici l'affaire dont j'ai à te parler, » fit Raskolnikov en attirant Razouspirine dans l'embrasure de la fenêtre. « Ainsi je dirai à Catherine Ivanovna que vous viendrez. » En prononçant ces mots, Sonia se préparait à prendre congé. « Bon, je suis à vous tout de suite, Sophie Vilmenovna. Nous n'avons pas de secret. Vous ne nous gênez pas. Je voudrais vous dire encore deux mots. » Et, s'interrompant soudain, il s'adressa à Razoubikhine. Tu connais ce, enfin, comment l'appelle-t-on, donc, ce Porfire Petrovitch? Ah, si je le connais, mais c'est mon parent. Eh bien, répondit la Zouzmichine, fort intriguée par cette entrée en matière. Hier, ne disiez-vous pas qu'il instruisait cette affaire, enfin, l'affaire à propos de ce meurtre? « Oui, eh bien, » demanda Rasmouchin en ouvrant de grands yeux. Il interroge, disiez-vous, les gens qui ont mis des objets en gage chez la vieille. Or, j'ai moi-même engagé là quelque chose. Cela mérite à peine qu'on en parle, une petite bague que ma sœur m'a donnée quand je suis parti pour Pétersbourg, et une montre en argent qui appartenait à mon père. Le tout vaut de, 5 à 6 roubles, mais j'y tiens en tant que souvenir. Que dois-je faire à présent? Je ne veux pas que ces objets soient perdus, surtout la montre. Je tremblais tantôt que ma mère me demanda à la voir lorsqu'on a parlé de celle de Dounetchka. C'est la seule chose que nous ayons conservée de mon père. Si elle est perdue, oh, maman en fera plus une maladie. Les femmes. Aussi, apprends-moi comment je dois m'y prendre. Je sais qu'il faudrait faire une déclaration à la police, mais ne vaut-il pas mieux que je m'adresse à Porfir lui-même? Qu'en penses-tu? J'ai hâte d'arranger cette affaire. Tu verras qu'avant le dîner, maman m'aura déjà demandé des nouvelles de la mémoire, montre. C'est pas la police qu'il faut aller, c'est chez Porfir, s'écria Razoubikhine en proie à une agitation extraordinaire. Oh, que je suis content! Mais nous pouvons y aller tout de suite, c'est à 2 pas d'ici. Nous sommes sûrs de le trouver. Bon, soit, partons. Il sera positivement enchanté de faire ta connaissance. Je lui ai beaucoup parlé de toi à différentes reprises, hier, encore. Allez, partons. Ainsi, ah, tu connaissais la vieille. Tout cela se rencontre admirablement. Ah oui, Sophie Ivanovna. Non, Sophie Semyonovna, rectifia Raskolnikov. Sophie Semyonovna, c'est mon ami, Razouskin, un brave homme. Ah, si vous aviez à sortir, commença Sonia, que cette présentation avait rendu plus confuse encore et qui nous levait les yeux sur la souirine. Eh bien, partons, décida Raskolnikov. Je passerai chez vous dans la journée, Sophie Semyonovna. Dites-moi seulement où vous demeurez. Il prononça ces mots non pas précisément d'un air embarrassé, mais avec une certaine précipitation et en évitant les regards de la jeune fille. Celle-ci donna son adresse, non sans rougir. Tous trois sortirent ensemble. « Tu fermes pas la porte ?» demanda la Zoubichine, tandis qu'il descendait l'escalier. « Bon, jamais. Du reste, voilà déjà 2 ans que je veux toujours acheter une serrure, » dit négligemment Raskolnikov. « Heureux, n'est-ce pas, les gens qui n'ont rien à mettre sous clé ?» ajouta-t-il gaiement en s'adressant à Sonia. Sur le seuil de la grande porte, ils s'arrêtèrent. Vous allez à droite, Sophie Semyonovna. À propos, comment avez-vous découvert mon logement? On voyait que ce qu'il disait n'était pas ce qu'il voulait ou aurait voulu dire. Il ne cessait de considérer les yeux clairs et doux de la jeune fille. « Mais vous avez donné hier votre adresse à Poletchka. »« Quelle Poletchka ? Ah oui ! Ah, c'est la petite, c'est votre sœur. »« Ainsi, je lui ai donné mon adresse. »« Est-ce que vous l'aviez oublié ?»« Non, je m'en souviens. »« J'avais déjà entendu parler de vous par le défunt. » Seulement, je ne savais pas alors votre nom, il le savait lui-même. Maintenant, je suis venu et, quand j'ai appris hier votre nom, j'ai demandé aujourd'hui, c'est ici qu'habite M. Raskolnikov? Je ne savais pas que vous viviez aussi en Garni. Adieu, oh, je dirai à Catherine Ivanovna. Fort contente de pouvoir enfin s'en aller, Sonia s'éloigna d'un pas rapide et en tenant les yeux baissés. Il lui tardait d'atteindre le premier coin de rue à droite pour échapper à la vue des deux jeunes gens et réfléchir sans témoin à tous les incidents de cette visite. Jamais elle n'avait rien éprouvé de semblable. Tout un monde ignoré surgissait confusément dans son âme. Elle se rappela soudain que Raskolnikov avait spontanément manifesté l'intention de l'aller voir aujourd'hui. Peut-être viendrait-il dans la matinée, peut-être tout à l'heure. Oh, puisse-t-il ne pas venir aujourd'hui ? Murmura-t-elle angoissée. « Seigneur, chez moi, dans cette chambre, où il verra, oh Seigneur !» Elle était trop préoccupée pour remarquer que depuis sa sortie de la maison, elle était suivie par un inconnu. Au moment où Raskolnikov, Razoumikhine et Sonia s'étaient arrêtés sur le trottoir pour causer durant 1 minute, le hasard avait voulu que ce monsieur passât à côté d'eux. Les mots de Sonia. J'ai demandé, c'est ici qu'habite M. Raskolnikov ? Arrivèrent fortuitement à ses oreilles et le firent presque tressaillir. Il regarda à la dérobée les trois interlocuteurs et en particulier Raskolnikov, à qui la jeune fille s'était adressée. Puis il examina la maison pour pouvoir la reconnaître au besoin. Oh, tout cela fut fait en un clin d'œil, et aussi peu ostensiblement que possible. Après quoi, le monsieur s'éloigna en ralentissant le pas, comme s'il eût attendu quelqu'un. C'était Sonia qui l'attendait. Bientôt il la vit prendre congé des deux jeunes gens et s'acheminer vers son logis. Mais où demeure-t-elle? J'ai vu ce visage-là quelque part, pensa-t-il. Ah, il faut que je le sache. Quand il eut atteint le coin de la rue, il passa sur l'autre trottoir, se retourna et s'aperçut que la jeune fille marchait dans la même direction que lui. Elle ne remarquait rien. Quand elle fut arrivée au tournant de la rue, elle prit de ce côté. Il se mit à la suivre, tout en cheminant sur le trottoir opposé et ne la quitta point des yeux. Au bout de 50 pas, il traversa la chaussée, rattrapa la jeune fille et marcha derrière elle à une distance de 5 pas. C'était un homme de 50 ans, mais fort bien conservé et paraissant beaucoup plus jeune que son âge. D'une taille au-dessus de la moyenne, d'une corpulence respectable, il avait des épaules larges et un peu voûtées. Vêtu d'une façon aussi élégante que confortable, ganté de frais, il tenait à la main une belle canne qu'il faisait résonner à chaque pas sur le trottoir. Tout dans sa personne décelait un gentilhomme. Son visage large était assez agréable. En même temps, l'éclat de son teint et ses lèvres vermeilles ne permettaient pas de le prendre pour un pétersbourgeois. Ses cheveux encore très épais étaient restés très blonds et commençaient à peine à grisonner. Sa barbe longue, large, bien fournie, était d'une couleur plutôt claire, encore que ses cheveux. Ses yeux bleus avaient un regard froid, sérieux et fixe. L'inconnu avait eu assez longtemps la faculté d'observer Sonia pour remarquer que la jeune fille était distraite et rêveuse. Arrivée devant sa maison, elle en franchit le seuil. Le barin, qui se trouvait derrière elle, continua à la suivre, tout en paraissant un peu étonné. Après être entrée dans la cour, Sonia prit l'escalier à droite, celui qui conduisait à son logement. « Bah !» fit à part seul le monsieur. Et il monta l'escalier à sa suite. Alors, seulement, Sonia remarqua la présence de l'inconnu. Parvenue au troisième étage, elle s'engagea dans un couloir et sonna au numéro 9, où on lisait sur la porte des deux mots écrits à la craie « Kapernaumov, tailleur ». « Bah !» répéta l'inconnu, surpris de cette coïncidence, et il sonna à côté au numéro 8. Les deux portes étaient à 6 pas l'une de l'autre. « Vous demeurez chez Kapernaumov ?» dit-il en riant à Sonia. « Il m'a raccommodé hier un gilet. Moi, je loge ici, près de chez vous, dans l'appartement de Madame Roslich, Gertrude Karlovna. Comme cela se trouve !» Sonia le regarda avec attention. Ben, nous sommes voisins, continua-t-il d'un ton enjoué. Je ne suis à Saint-Pétersbourg que depuis avant-hier. Allons, jusqu'au plaisir de vous revoir. Sonia ne répondit pas, la porte s'ouvrit et la jeune fille entra vivement chez elle. Elle se sentait intimidée, honteuse. Rasmouchine était fort animée pendant qu'il se rendait chez Sorfir avec son ami. Ben, c'est parfait, mon cher, répéta-t-il plusieurs fois, et je suis enchanté, enchanté. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais mis quelque chose en gage chez la vieille. Hé, il y a longtemps de cela, enfin, je veux dire, il y a longtemps que tu as été chez elle. Quand donc, fit Raskolnikov en ayant l'air d'interroger ses souvenirs. Oh, c'est, je crois, l'avant-veille de sa mort que je suis allé chez elle. Du reste, il ne s'agit pas pour moi de dégager maintenant ces objets, s'empressa-t-il d'ajouter, comme si cette question l'eût vivement préoccupé. Je me trouve n'avoir plus qu'un rouble. Grâce aux folies que j'ai faites hier soir sous l'influence de ce maudit délire. Il appuya d'une façon particulière sur le mot maudit délire. Alors, oh, oui, se hâta de dire Razoumikhine, répondant à une pensée qui lui était venue. Ainsi, c'est pour cela qu'Arthur. Oh, la chose m'avait frappé. Vois-tu, pendant que tu battais la campagne, tu ne parlais que de bagues et de chaînes de montre. Ben allons, oui, c'est clair maintenant, tout s'explique. Voilà. Cette idée s'est glissée dans leur esprit. J'en ai maintenant la preuve. Cet homme se ferait crucifier pour moi. Il est très heureux de pouvoir s'expliquer. Pourquoi je parlais de bagues durant mon délire? Mon langage a dû les confirmer dans tous leurs soupçons. Mais le trouverons-nous? Demanda-t-il à haute voix. Bon, certainement, nous le trouverons, répondit sans hésiter Razoumikhine. C'est un fameux gaillard, mon ami, tu verras. Un peu gauche, c'est vrai. Je n'entends point dire par là qu'il manque d'usage. Non, c'est un autre point de point de vue que je le trouve gauche. Il n'est point l'être trop bête. Il est même fort intelligent. Seulement, il a un tour d'esprit particulier. Il est incrédule, sceptique, cynique. Il aime à mystifier son monde. Avec cela, fidèle au vieux jeu, c'est-à-dire en admettant que l'épreuve matérielle, ben, il sait son métier. L'an dernier, il a débrouillé une affaire de meurtre dans laquelle presque tous les incidents faisaient défaut. Non, numéro 2, mais il sait son métier. Mais oui, c'est son métier. L'an dernier, il a débrouillé une affaire de meurtre dans laquelle presque tous les indices faisaient défaut. Il a le plus grand désir de faire la connaissance. Mais pourquoi y tient-il tant que cela? Oh, ce n'est pas que. Vois-tu, dans ces derniers temps, pendant que tu étais malade, nous avons eu souvent l'occasion de parler de toi. Il assistait à nos conversations. Quand il a appris que tu étais étudiant en droit et que tu avais été forcé de quitter l'université, il a dit: Quel dommage! J'en ai conclu, enfin, c'est-à-dire que je ne me suis pas fondé là-dessus seulement, mais sur bien d'autres choses. Hier, ami Étoffe, écoute, Rodia, quand je t'ai ramené hier chez toi, j'étais ivre et je bavardais à tort et à travers, mais je crains que tu n'aies pris mes paroles trop au sérieux. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qui me considère comme un fou? Eh bien, ils ont peut-être raison, répondit Raskolnikov avec un sourire forcé. Ils se turent. Razoumikhine était aux anges, et Raskolnikov le remarquait avec colère. C'est que son ami venait de lui dire au sujet du juge d'instruction ne laissait pas non plus de l'inquiéter. Dans cette maison grise, dit Razoumikhine, l'essentiel est de savoir, pensa Raskolnikov, si Porphyre est instruit de ma visite d'hier au logement de cette sorcière et de la question que j'ai faite à propos du sang. Il faut que je sois tout d'abord fixé là-dessus. Il faut que, dès le premier moment, dès mon entrée dans la chambre, je lise cela sur son visage, autrement, dussé-je me perdre, j'en aurais le cœur net. Sais-tu une chose, dit-il brusquement en s'adressant à Razoumikhine avec un sourire finaud. Il me semble, mon ami, que tu es depuis ce matin dans une telle agitation extraordinaire. Est-ce vrai? Non, comment, pas du tout, répondit Razoumikhine vexé. Bon, je ne me trompe pas, mon ami. Tantôt, tu étais assis sur le bord de ta chaise, ce qui ne t'arrive jamais. Et l'on aurait dit que tu avais des crampes. Tu sursautais à chaque instant. Ton humeur variait sans cesse. Tu te mettais en colère pour devenir un moment après tout miel et tout sucre. Tu rougissais même. C'est surtout quand on t'a invité à dîner que tu es devenu rouge. Mais non, c'est absurde. Pourquoi dis-tu cela? Mais vraiment, tu as des timidités d'écolier. Diable, voilà qu'il rougit encore. Oh, tu es insupportable. Mais pourquoi cette confusion, Roméo? Laisse faire aujourd'hui. Je raconterai cela quelque part. Ah, je vais bien m'amuser, maman, et une autre personne encore. Mais non, écoute un peu, écoute. Écoute, c'est sérieux. Vois-tu, sais. Ah, pour cela, diable, bredouilla Razoumikhine, glacé de crainte. Que leur raconteras-tu? Mon ami, je. Oh, quel cochon tu es! Une vraie rose de printemps. Et si tu savais comme cela te va? Un Roméo de deux archimes, 12 vershoks. Mais j'espère que tu t'es lavé aujourd'hui. Tu as même nettoyé tes ongles, pas vrai? Quand cela a-t-il eu lieu? Oh, Dieu me pardonne, je crois que tu t'es pommadé. Baisse donc la tête que je la flaire. Cochon! Raskolnikov s'exclama de rire. Et cette hilarité, qu'il semblait impuissant à maîtriser, durait encore lorsque les deux jeunes gens arrivèrent chez Porfir Pietrovitch. De l'appartement, on pouvait entendre les rires du visiteur dans l'antichambre, et Raskolnikov comptait bien qu'il serait entendu. Si tu dis un mot, je t'assomme, murmura Razoumikhine, furieux, en saisissant son ami par l'épaule.